voyait d'Argenson, boutade d'un riche à sentiment populaire. Quand je vois le peuple s'insurger pour réclamer une misérable augmentation de salaire, s'exposer à toute l'atrocité des lois inventées contre lui par les aristocrates pour faire ce qu'on a appelé, à Anzin, l'émeute de 4 sous, s'assembler à Paris sur les places et aux barrières, s'organiser hiérarchiquement pour contraindre les maîtres à assujettir l'ouvrier à quelques quarts d'heure de travail de moins, verser son sang à Lyon pour une chétive amélioration dans les tarifs, je ne puis me défendre d'un sentiment profond de tristesse et de piété. Toute richesse vient du travail et ne peut avoir aucune autre origine. Il n'y a pas un produit naturel qui n'ait besoin de travail pour être approprié à l'usage de l'homme. Si tu veux manger un fruit, il faut que je le cueille. Si je veux me chauffer ou faire cuire des aliments, il faut que j'abatte l'arbre. Si je veux me nourrir de la chair des animaux, il faut que je les élève ou que je les poursuive à la chasse. La somme des produits annuels obtenus par le travail d'une nature se partage en intérêts de capitaux, en loyers de terre et en salaires. On est convenu de prendre les espèces monnayées pour mesure de la valeur de ces produits. Supposons, sans attacher plus d'importance qu'elle n'en mérite à l'exactitude du calcul, que la valeur totale des produits que la nation française obtient annuellement par le travail soit de 8 milliards. Si l'on retranche des 30 et quelques millions d'habitants de la France, les riches, les salariés publics, les vieillards et les infirmes, les femmes qui ne peuvent se livrer au travail, ou ce qui revient au même, un nombre de femmes équivalent à la quantité d'heures, de jours ou de mois pendant lesquels les plus laborieuses d'entre elles sont hors d'état de travailler, et enfin les jeunes enfants, on trouvera que c'est élevé bien haut le nombre des travailleurs que de porter ce nombre à 15 millions. Ainsi, c'est à ces 15 millions de travailleurs que la patrie est redevable de son revenu annuel de 8 milliards. Si l'on suppose que chacun de ces travailleurs gagne, par année, un salaire moyen de 400 francs, supposition qui excède indubitablement la réalité, on trouve que sur les 8 milliards de produits annuels, les salaires enlèvent 6 milliards. On peut contester ces données, on peut proposer d'autres aperçus. Mais ce qu'on ne pourrait nier, c'est que sur ce produit brut du travail, les possesseurs de terres, de maisons et de capitaux prélèvent le prix de leur loyer. Si je n'évalue qu'au quart le produit brut de la somme de ces loyers, je reste certainement au-dessous du vrai. Ce quart va grossir annuellement le pécule du riche, en le portant à 2 milliards. Je répète que j'abandonne à la controverse la précision du calcul. Il me suffit que l'on reconnaisse qu'il existe un excédent et que cet excédent est considérable. Ces 2 milliards, ou plus, à qui sont-ils dévolus? Aux riches et aux oisifs, sous le nom de loyer de terre, loyer de maison et intérêt de capitaux. Et à quel titre? Parce que sous les régimes et sous des noms différents, ils se sont arrogés le droit de faire les lois et de sophistiquer la morale. Parce qu'ils sont là pour prêter main forte à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Croit-on que le travailleur ait la permission de jouir sans déchet de la part qui lui reste sur le produit de son travail? On serait dans une erreur profonde. Et d'abord, c'est la véritable loi de Dieu, c'est la vraie morale qui lui impose l'obligation de nourrir et d'entretenir cette classe de femmes, de vieillards, d'infirmes et d'enfants. Qui lui appartiennent dans les 15 millions que nous venons de retrancher du nombre des travailleurs. C'est sur son salaire, rien que sur son salaire, qu'il accomplit cette obligation sacrée. Est-ce tout enfin? Vous êtes bien impatient. La nation paye environ 1200 millions de contributions publiques. Est-ce que vous auriez la bonhomie de croire que les riches qui font les lois en paient leur part? Ils ne sont pas si dupes. Ne possèdent-ils pas la majeure partie des capitaux fonciers et mobiliers et de tous les produits alimentaires? Quand ils les louent ou qu'ils les revendent au peuple, ils ont grand soin d'ajouter à leur prix naturel la petite part de l'impôt qu'ils ont avancé pour l'obtenir et se faire ainsi rembourser leur impôt. Supposez un champ de blé qui a produit 500 boisseaux. Supposez que chaque boisseau revienne à son propriétaire à 25 sous. Tout frais fait et location de terre payée. Supposez que la part de l'impôt foncier que ce boisseau a supporté est de 2 à 3 sous. Le vendeur saura bien ajouter cette part d'impôt au prix principal et même un peu par-delà. Crainte de se tromper. Il en est de même du vin, du bois, de la viande et des produits des fabriques. Mais si le peuple ne payait pas sur ses salaires, que son propre impôt, celui des femmes, des enfants, des vieillards, des infirmes et enfin celui des riches, c'est-à-dire la totalité de l'impôt, il serait encore bien mieux traité qu'il ne l'est en effet. Les riches ne paient pas d'impôt, c'est convenu. Mais ils avancent la partie de cet impôt qui est assise sur les capitaux fonciers et mobiliers. Or, voilà le beau de l'affaire. Vous allez voir comment ils en font une source de profit. Certains d'entre eux disent aux autres qui avec eux font les lois. Vous le voyez, nous ne vendons notre blé que tout juste ce qu'il faut pour en retirer le prix qu'il nous coûte. Plus un assez joli loyer de notaire, plus notre impôt, et bien peu par-delà. Il vous serait bien facile de nous aider à gagner davantage. Dites qu'il faut protéger l'agriculture, qu'elle supporte de trop lourds impôts. Mettez une taxe sur les blés qui viennent de l'étranger. Alors nous vendrons le nôtre plus cher et nous reprendrons, par ce moyen, au peuple, quelque chose de ce salaire que nous sommes forcés de lui donner pour avoir son travail, ce qui est fort désagréable. Volontiers, disent les autres riches qui font les lois, mais à la condition que vous en ferez autant en notre faveur, nous qui vendons les bestiaux ou, ce qui est la même chose, qui louons nos terres à de petites gens, qui élèvent ces bestiaux et payent nos fermages avec ce qu'ils gagnent. D'accord, disent à leur tour ceux des riches qui font aussi les lois, et dont la richesse consiste en forêts, mais à charge de réciprocité. Vous êtes trop polis pour nous refuser le moyen de faire payer au peuple le bois dont il a besoin beaucoup plus cher qu'il ne vaut. C'est bien aisé. Défendez d'introduire en France le fer, le verre, la faïence de l'étranger, enfin, tous les produits obtenus par les moyens du feu. Il faudra bien, coûte que coûte, payer notre bois à tout prix pour produire ces substances en France. Et puis, d'ailleurs, voilà nos camarades les manufacturiers qui font aussi les lois avec nous. Et nous partagerons ensemble les profits que cette honnête opération nous fera faire sur le salaire de ce diable de peuple. Les producteurs de verre à soie, les fabricants d'étoffes, qui mettent en œuvre leurs cocons, les raffineurs de sucre et je ne sais combien d'autres, viendront tous à la curée et feront aussi leur marché. Car ils font aussi des lois. Il ne faut pas oublier ces capitalistes qui ne possèdent, avec leur portefeuille, que de belles maisons de ville et de campagne. Ceux-là n'ont rien à vendre, rien à louer. Mais ils font aussi des lois. Et Dieu nous préserve de les mécontenter. On fera leur part au moyen de bons emprunts publics où ils doubleront, tripleront leurs capitaux en 2 ou 3 ans. On passera avec eux des marchés d'entreprise, à la guerre, aux travaux publics. On créera des monopoles de banques, de sel, de tabac. On leur confiera le maniement des finances, de l'État, car les finances de l'État, c'est le peuple qui les alimente, soit indirectement, lorsqu'ils remboursent aux riches le prix de ses avances, soit directement, par les droits d'entrée, ceux sur le sel ou les boissons, portes et fenêtres, impôts personnels, etc. Conséquemment, les profits, qui se font aux finances, ne se prennent que sur le salaire du peuple. Après les gros riches qui font les lois, viennent les petits riches qui font les règlements municipaux. Ceux-là feront des tarifs d'octroi, administreront les revenus des villes et n'y perdront pas leur temps. Et si l'on venait à raconter comment, dans la législation politique, financière, civile et commerciale, tout est connu de manière à donner exclusivement crédit à l'État ainsi qu'à la richesse financière et mobilière, à anéantir tout crédit personnel en faveur duquel on a su inventer que la barbare contrainte par corps, on entreverrait, sans pouvoir le supputer, quelles énormes sommes sont extorquées aux pauvres et reprises sur son misérable salaire. Soit par les mondes piétés, soit par l'usure privée, soit surtout par l'énorme disproportion entre les prix de détail qu'il subit et le véritable prix des marchandises, disproportion qui s'accroît indéfiniment quand il est contraint d'acheter non seulement en détail, mais en détail et à crédit. Si l'on parlait de la conscription, si légère aux riches, si désastreuse aux pauvres. Si on la poursuivait dans ses effets sur le sort de la famille entière et dans la cabane et dans les faubourgs. De l'inscription maritime que le riche ne connaît pas. Si, après avoir considéré moralement tout ce que le contraste de l'opulence et de la misère, du privilège et de l'injustice fait commettre de crimes, de délits et de contraventions, on évaluait à prix d'argent ce qu'il en coûte aux familles en frais de justice et en perte de temps. Et l'administration avec ses exigences, et la police avec sa surveillance, ses passeports, ses livrets, on finirait par se demander comment il se peut qu'il reste quelque chose aux travailleurs sur leur salaire. Et s'il est permis de croire qu'ils conservent seulement le tiers des 6 milliards dont je les ai tout à l'heure beaucoup trop généreusement dotés. On se sent alors impérieusement dominé par le besoin de dire au peuple: vous manquez à tous vos devoirs envers Dieu, envers vous-même, envers vos femmes, les auteurs de vos jours, s'ils vivent encore, et surtout envers vos enfants, si, après un soulèvement suivi de succès, vous êtes assez lâche ou assez ignorant pour vous borner à exiger une amélioration de tarifs ou une élévation de salaire, car ceci, fût-il triplé, ne représenterait pas encore votre portion virile dans l'héritage social. Et de plus, tant que vous laisserez les riches en possession de faire seuls les lois, quelques concessions qu'ils vous fassent, ils sauront bien vous les reprendre avec usure.